André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. L'aventurier contre tout guerrier que nous retrouvons pour la dernière émission de notre série Henri Verne et Bob Morane. Aujourd'hui, nous allons présenter un roman du genre fantastique intitulé Quick avec Michel Lagouin. Bonjour Michel.
Bonjour André.
Merci d'être avec nous pour les lectures d'extraits de ce roman qui est paru en 2001 aux éditions Ananquet, Le Franc. Mon premier est magicien. Mon deuxième est collectionneur. Mon troisième est une gigantesque araignée. Mon quatrième est chasseur. Mon cinquième est un robot. Et mon tout, c'est Quick, une fantastique aventure de Bob Morane. Bob et Bill Ballantyne bien sûr, se retrouvent dans une ambiance de foire juste avant de prendre l'avion pour les États-Unis. Une interview où les attendait à propos d'une menace de guerre chimique et biologique. Sur un stand, un défi à relever. Un combat avec Jack le Borgne contre Mustapha l'étrangleur. Quick, un nain magicien, les invite à prendre place. Ballantyne se laisse séduire, tandis que le magicien s'évapore. Une curieuse rencontre, laissant un sentiment de malaise à Bob avec Bill, introuvable malgré ses recherches. Et si ce Quick était un être maléfique, il décide de chercher son ami et trouve la baraque du nain aisément. Il fait la connaissance d'une jeune femme, Violette Rank, en quête de son frère disparu de façon tout aussi mystérieuse que Bill. Ils entrent dans la baraque de Quick, celui-ci les hypnotise et les fait entrer dans un univers onirique. Violette et lui se retrouvent dans les mains de Quirko, le collectionneur. Un Quirko qui enferme les objets de sa collection dans des bouteilles. Prisonnier de la bouteille, Bob entre de la casser en vain. Finalement, à l'aide d'une roulette, il réussit à couper le verre et à s'en sortir, délivrant également Violette de sa bouteille. Ils se mettent à la recherche du frère et de Bill et découvrent d'autres prisonniers dans d'autres bouteilles dans un état avancé de décrépitude, voire des cadavres. Violette et Bob font le choix de s'échapper dans une faille et se retrouvent en face d'une énorme araignée, Ourik. Ourik, l'araignée, et qui prend Bob au piège dans sa toile gluante, dont il réussit à s'échapper et grâce à son veston, à son agenda et à son briquet. Il met le feu à la toile et tous les deux, ils sortent de ce trou avec Violette. Mais d'autres ennemis les attendent, des nocturnes. Quatre voix de guerriers. Bob et Violette arrivent devant les nocturnes, dont le chef, Rovonodan, un vieil homme, les conduit dans un endroit au paysage inattendu, une vallée aux couleurs magnifiques. Mais était-ce la réalité? Voici un extrait du chapitre 4, lu par Michel.
Ce qu'ils voyaient, c'était, devant eux, la douceur inattendue d'un paysage qu'on eût dit sorti tout droit d'un tableau de Bruegel de velours. Une vallée qui glissait mollement jusqu'au trait d'argent, légèrement bleutée d'une rivière. Des arbustes au feuillage couleur d'émeraude et de grands arbres élancés rappelant ceux qui se découpent finement sur le ciel de Flandre. Après l'antre sombre de Quick, le magicien, après les sinistres prisons translucides de Quirko, le collectionneur, après l'horreur menaçante d'Ourik, l'araignée, après les nocturnes blafards et chevelus, c'était le paradis. Rovonedan fit trois pas en avant, posa les pieds dans l'herbe, se retourna à demi vers Bob et Violette, figés encore dans des faisceaux obliques de la lumière qui tombait sur eux, et il répéta « Voilà !» Il fit un geste, et les nocturnes livides se mirent en marche, l'un derrière l'autre, l'arme sur l'épaule, sans un mot, descendant la pente de la vallée en une file sinueuse. Seul, celui qu'on appelait Braco, resta auprès de Rovonédan pour, sur un signe de celui-ci, le soulever sans douceur ni rudesse et l'installer sur ses larges épaules. Après quoi, il emboîta le pas à ses congénères. Lentement, avec hésitation, Mouran et la jeune fille gagnèrent à leur tour l'air libre, emplissant leurs yeux du ravissant décor et respirant l'air léger avec une soudaine fringale de noyés qui reviennent à la vie. Mouran se tourna vers sa jeune compagne. « Voulez-vous que je vous porte aussi sur mes épaules » demanda-t-il. «
Oui, non, je regarde. »
Elle laissa échapper un rire nerveux, se passa la main dans les cheveux d'un air égaré et répondit « Ça ira, Bob. » Ils se mirent en route à leur tour, suivant la file des guerriers qui serpentaient dans l'herbe haute. « Alors ?» dit Violette. « Qu'en pensez-vous, Bob ?»«
Je pense que quelque chose n'est pas normal. »«
Vraiment ?»«
Ne faites pas d'ironie, petite Violette des Bois. Avez-vous remarqué le ciel ?»«
Non, je vois bien que vous n'avez rien remarqué du tout. » Elle s'arrêta, leva le nez, scruta le ciel en question, se remit en marche en haussant les épaules. «
Mais qu'a-t-il donc, votre ciel ? » reprit-elle après quelques secondes.
« Il a, dit Bob, qu'il ne me paraît pas naturel, et je dois vous avouer que, d'une certaine manière, cela me rassure. »«
Ah ?
Oui, si ce ciel était normal, comme l'est, par exemple, notre bon ciel de France, que je ne désespère pas de retrouver, c'est alors qu'il serait nécessaire de se poser des questions. Tandis que maintenant, tel qu'il est, ce ciel est tout simplement dans la logique des choses. C'est-à-dire anormal. Ça, je l'avais déjà compris. Mais en quoi est-il anormal ?
La lumière, répondit Mouran. La lumière.
Il regarda autour de lui et, sans cesser de marcher, fit de la main un grand geste qui embrassait la vallée, ses arbres, sa rivière, les nocturnes qui avançaient devant eux. Et il poursuivit. « Vous voyez, tout est noyé dans la lumière. Et quelle lumière, Violette ?»«
La lumière du... »
Elle s'arrêta pile, ouvrit largement ses yeux immenses, porta une main à sa bouche ouverte, regarda fixement son compagnon. Bob lui prit la main et l'entraîna.
« Très bien, dit-il. Vous avez trouvé. »«
Il n'y a pas de soleil, » murmura-t-elle.
« Eh non, c'est bien ça, petite fille.
Il y a de la lumière, beaucoup de lumière, mais pas de soleil. Ce qui explique pourquoi nos petits amis, les guerriers, là, devant, sont plutôt pâles. »«
Les guerriers ?»«
Oui, les guerriers. » Vous trouvez ça normal, vous, des gens à moitié nus, qui se promènent à longueur de journée en pleine nature et qui restent aussi pâles qu'un projet de réforme gouvernementale ?
C'est vrai, reconnut Violette.
Mais comment expliquez-vous ce phénomène ?
Car il doit bien y avoir une explication à tout cela.
Peut-être. Allons, dites, je vois bien que vous avez une idée.
Ce n'est qu'une idée, en effet. Une supposition.
Puisque nous avons constaté la présence certaine d'une source de lumière et en même temps l'absence de soleil, nous pourrions en conclure, pour rester dans la logique, que cette lumière est artificielle. Et si nous allons jusqu'au bout de cette supposition, nous pourrions penser encore que cette vallée, cette rivière, ces arbres, tout cela est également artificiel.
Pensez-moi, dit Violette.
Pourquoi ? Pour vous rendre compte si vous rêvez ou si au contraire vous ne rêvez pas ?
À quoi bon ?
Même si je vous pinçais, ce dont je me garderais bien, vous pourriez très bien rêver que je vous pince ou rêver que vous ne sentez rien alors même que je vous aurais réellement pincé. Et dans ce cas, en conclure que vous rêvez, alors qu'en réalité, vous ne rêveriez pas.
Assez ! S'écria la jeune fille avec un rire nerveux. « Vous allez me rendre folle !»«
J'aurais déjà réussi à vous faire rire. Et rien que ça, ça vaut la peine de friser la méningite. »
Bob Moran avait voulu la distraire, lui faire penser à autre chose qu'à leur inquiétante situation, et il avait réussi. Pendant qu'ils bavardaient ainsi, ils avaient fait du chemin, longé la rivière sur une assez longue distance. Et puis, au détour d'un massif de buissons, ils avaient découvert ce qui devait être le camp des nocturnes. Une clairière, un grand feu qui couvait en fumant sous la cendre, des hommes armés qui les regardaient s'approcher avec curiosité. C'était tout. Braco, le grand guerrier qui avait porté Rovonedan sur ses épaules, déposa le vieux chef sur le sol à quelques pas du feu. Tous les hommes se laissèrent tomber sur l'herbe et Rovonedan invita Moran à s'asseoir à ses côtés. Les guerriers à la peau livide ne quittaient pas des yeux Bob et la jeune fille, tandis qu'un bourdonnement de voix s'élevait, d'où s'échappaient parfois quelques mots, des bribes de phrases, qui venaient frapper les oreilles de Moran. Celui-ci comprit qu'on parlait de lui, d'Ourik, l'araignée, de Ruiko, le chasseur, du feu qu'il pouvait faire jaillir du bout de ses doigts, et même de la jeune fille que tout le monde feignait d'ignorer. « Paix sur toi, tueur d'araignées !» commença Rovonedan. « Paix sur toi, tueur d'araignées !» répétèrent les guerriers. « Paix sur vous !» lança Bob. Rovonedan se pencha en avant, tandis que l'extrémité de sa barbe sautait dans l'herbe. Il plissa les yeux et dit « Ruiko le chasseur a tué autant de nos hommes qu'il y a de mains rassemblées ici. » Il se tut, et tous les guerriers levèrent les mains, les tinrent un instant devant leur visage avant de les laisser retomber. « Si toi, tueur d'araignées, reprit le vieil homme, tu tues Ruiko le chasseur, il y aura une place pour toi parmi les guerriers de Rovonedan. » Il se tut à nouveau, et Moran répondit sans sourciller, « Ce serait un bonheur pour moi, Rovonedan, un très grand honneur. » Paix sur toi, tueur d'araignées, dit le vieux chef. Mais.
Enfin, ce sera coupé au montage.
À son tour, il se tut, laissa passer que quelques secondes avant de poursuivre.
Alors, attends, reprends. Je reprends. Ouais, reprends la dernière phrase. Paix sur toi, le tueur d'araignées, dit le vieux chef, et voilà, reprends à partir de là.
Paix sur toi, tueur d'araignées, dit le vieux chef. Mais, dit Bob. À son tour, il se tut, laissa passer que quelques secondes avant de poursuivre avec douceur. « Mais à quoi bon tuer Ruiko le chasseur, puisque même si je tuais son corps, son esprit vivrait toujours ?»« Et attrape ça, vieux finot » pensa-t-il, tout content, bien qu'il n'en laissât rien paraître, de rendre au vieil homme la monnaie de sa pièce. Rovonedan saisit l'allusion, mais pas une ride de son visage plissé ne tressaillit, et il répondit posément, avec une assurance paisible, « Tu dis vrai, tueur d'araignée, tu dis vrai. Mais toi, tu n'as pas fait d'offrande à l'esprit d'Ourik l'araignée en échange du corps que tu lui as ôté, tandis que nous... » Une fois de plus, le chef s'interrompit, et son regard fit le tour des guerriers, qui l'un après l'autre hochèrent la tête avec lenteur. Après quoi, Rovonedan ouvrit à nouveau la bouche, et ses yeux n'étaient plus que deux fentes lorsqu'il dit « Nous, nous ferons une offrande à l'esprit de Ruiko le chasseur. Nous offrirons un sacrifice, si tu le tues. » Ces dernières paroles tombèrent dans un silence tout à coup pesant, et instinctivement les nerfs de Moran se tendirent à craquer, car il avait déjà deviné ce qu'allait ajouter le vieux chef. « Si tu parviens à tuer Ruiko le chasseur, » dit Rovonedan avec force, « nous offrirons la femme en sacrifice. » Et le chef des guerriers pointa un doigt décharné en direction de Violette.
Bob passa marcher avec Rovonedan. En échange de la mort de Ruiko, Violette aura la vie sauve. Bob interroge le chef, mais sans certitude de ses réponses et de son récit absurde et incohérent. Bob part cependant, laissant Violette aux mains des guerriers nocturnes. Un singe pour seul compagnon de voyage. Où finissait la réalité? Où commençait la fantasmagorie. Une colonne de métal jaillit du sol, emportant Joko, le singe. Bob doit continuer d'avancer, malgré le danger, et trouve un stratagème pour arrêter Ruiko et l'anéantir en se servant de sa chemise pour aveugler l'œil électronique du chasseur. Bob revient dans le camp des guerriers et poursuit sa route en leur compagnie et celle de Violette, vers la grande plaine. Il lui explique en chemin que Ruiko n'est qu'une simple machine et décide de trouver qui se cache derrière l'engin. Peut-être Quick. Bob pressent un danger imminent. Soudain, Ruiko, encore vivant, surgit et emporte tour à tour Braco, l'un des guerriers nocturnes, puis Rovonodan, leur chef, dans ses tentacules de métal. Puis vient la nuit, et l'obscurité la plus complète.
Combien de temps resta-t-il ainsi plongé au cœur de cette nuit artificielle? Il ne le sut jamais. Pendant longtemps, lui sembla-t-il. Et puis soudain, ce fut la lumière, une lumière violente, envahissante, blanche et méchante, presque insoutenable, et qui lui arracha les larmes. Petit à petit, cependant, il put ouvrir les paupières et regarder autour de lui. Il était tout à fait incapable de bouger, mais ses yeux lui permirent de constater qu'il était couché, étendu sur le dos, les pieds placés beaucoup plus bas que la tête, suivant un angle qui ne devait pas faire loin de 30 degrés. Devant lui, tout était blanc, d'un blanc lumineux, phosphorescent, et rien d'autre que cette clarté éblouissante ne venait distraire son attention. Il se sentait aussi faible, aussi impuissant qu'un nouveau-né. Finalement, il ferma les yeux, préférant l'ombre rosée derrière ses paupières closes, à l'éclat de cette lumière étincelante qui faisait mal. Morane venait tout juste de fermer les yeux quand il découvrit avec plaisir qu'il avait recouvré Louis. Oh, ce n'est pas qu'il entendit du Bach ou du Mozart, mais il entendait, et cette découverte le remplit de joie. C'était un bourdonnement sourd, comme le bruit d'un moteur, au loin, tournant au ralenti. Peut-être allait-il également recouvrer l'usage des autres sens. Il ne put s'empêcher de sourire mentalement, car il venait de se rendre compte qu'il avait également recouvré le sens de l'optimisme. Il poussa un profond soupir, à quoi tout aussitôt une voix répondit « Qui est là ?» Le cœur de Bob fit un saut dans sa poitrine, car il venait de reconnaître la voix de Violette. Violette qui parlait. Donc il pouvait sans doute parler aussi. « Devinez » risqua-t-il. « Bob !» s'écria la jeune fille derrière lui. « Hello, petite Violette des bois !» fit encore Morane. « Vous avez fait le grand voyage, vous aussi, apparemment. »« Oui, » dit-elle. « Affreux, n'est-ce pas ?»« Plutôt, oui. » Lorsque je vous ai vu filer, j'ai eu tellement peur de vous perdre que je me suis précipité bêtement derrière vous. Et comme j'ai eu droit au reste... Bêtement, dit Morane, est-ce que vous ne l'auriez pas fait un petit peu exprès, par hasard? Il y eut un bref silence, puis Violette répondit. On ne peut vraiment rien vous cacher. Il sourit pour lui-même, et se dit qu'ils se trouvaient tous deux comme des victimes d'un même accident qui se retrouvent dans une chambre d'hôpital, incapables de rien voir de ce qui se passe autour d'eux et dans l'incapacité de bouger, avec tout juste la possibilité de se parler. Mais après tout, n'étaient-ils pas précisément des accidentés? Que ressentez-vous? Demanda Bob. La même chose que vous, je suppose, dit la voix de la jeune fille, toujours derrière lui. « Je puis voir, entendre, parler, c'est tout. Impossible de bouger. »« Exactement comme moi, » reconnut Morane. Ils se turent à nouveau durant quelques instants, puis Bob demanda « Que voyez-vous, petite fille ?»« Vous devriez dire « Qui voyez-vous ?»« Comment ça ?»« Rovonedan se trouve en face de moi, » expliqua Violette.
Revenez d'Anne, il vous voit. Vous regarde-t-il?
Je ne crois pas, Bob. Ses yeux sont fermés, au moins depuis que j'ai ouvert les miens.
Est-il attaché?
Il est simplement couché sur une espèce de table oblique. On dirait du métal.
Nous pouvons en conclure que nous sommes dans la même situation.
Vous voyez autre chose?
Pas vraiment, mais je devine...
Quoi?
Une longue enfilade de tables de métal, pareille à celle sur laquelle était tendue Rovonedan.
Comme nous-mêmes, sans doute.
Cela tourne là-bas, très loin.
Très loin? Répéta Morad. Si loin que ça?
Ça m'en a tout l'air, en tout cas.
Pouvez-vous voir si le nombre de ces tables est supérieur à celui des guerriers qui étaient avec nous sur la grande plaine?
Il y en a beaucoup plus.
Des tables, je veux dire. Et il semblerait que j'occupe la dernière place, puisque je ne vois rien devant moi. Donc le nombre des proies de Ruiko, le chasseur, doit être assez important.
Si toutes les tables sont occupées, oui.
Mais vous-même, Bob, que voyez-vous?
Rien, je vous l'ai dit, répondit Morad en ouvrant prudemment les yeux sur le vide éblouissant devant lui.
Enfin, je ne sais pas si je puis appeler cela rien. Je ne vois que du blanc. Ça brille, ça fait mal aux yeux. On dirait un écran de cinéma, un écran perlé.
Ah, dit Violette.
Vous avez une idée de l'endroit où nous nous trouvons?
Absolument pas.
Pendant quelques minutes, ils se replongèrent tous deux dans leurs pensées, puis Violette reprit.
Je suppose que nous devons nous attendre à voir apparaître Ruiko le chasseur en personne.
Ruiko le chasseur?
Mais je crois que vous vous trompez, fillette.
Vous oubliez que le chasseur, c'est cette espèce de fusée aux yeux rouges qui nous a entraînés dans ce piège.
Si nous devons rencontrer quelqu'un, ce sera plutôt celui qui actionne Ruiko le chasseur.
Celui qui a provoqué la bourrasque,
qui a, elle, arraché votre chemise de l'œil de Ruiko.
Exactement.
J'aurais dû démolir cet œil électronique alors que j'en avais l'occasion.
Vous ne pouviez pas savoir, Bob.
Vous êtes gentille, Violette, mais je...
C'est vrai. Qui aurait pu imaginer qu'un vent pareil allait s'abattre sur nous?
J'aurais dû me douter que le petit malin qui est derrière tout ça n'allait pas abandonner si facilement la partie.
Voyez dans quel état, dans quel pétrin j'ai fourré Rovonedan et ses guerriers. Pas étonnant après cela que Braco ait voulu me casser la tête.
Oh mon Dieu, s'exclama la jeune fille.
Quoi? Dit Morad.
Vous n'êtes pas de cet avis, petite fille?
Ce n'est pas ça, Bob. C'est Braco.
Qu'est-ce qu'il a, Braco?
Ben, il est là.
Vous le voyez?
Oui.
Sur l'une des tables?
Non, justement, il arrive.
Braco? Il est debout?
Oui, Bob, et il marche.
Que fait-il? Dites-moi ce que vous voyez, Violette.
Il vient par ici, on dirait.
Quoi donc?
Oui, c'est bien cela, on dirait qu'il est saoul. Il trébuche.
Il est encore sonné, j'imagine.
Comme nous le serons, nous aussi, lorsque nous nous lèverons.
Ce costaud-là aura récupéré plus rapidement que nous.
Que fait-il?
Il examine les tables. Il se penche sur elles.
Vous savez ce que je crois, Bob?
J'ai compris aussi.
Il me cherche.
C'est ce que je pense.
Pouvez-vous bouger, Bob?
Concentrant toute sa volonté, Morad essaya de reprendre la maîtrise de ses nerfs, de ses muscles. Des perles de sueur dégoulinèrent le long de ses tempes.
« Non, grogna-t-il, je n'y arrive pas !»
Avec un profond soupir, il laissa échapper l'air de ses poumons.
« Que voyez-vous, Violette ? » reprit-il. « Et qu'est-ce qui se passe ?»«
Chut !» fit la jeune fille à voix basse.
« Attention, il approche !»«
Où est-il ? » chuchota Morad à son tour.
« Il a vu Rovonedan. »
Il s'arrête.
Il se penche sur le chef. Il lui parle.
Rovonedan ouvre les yeux. Il parle, lui aussi.
Je ne puis entendre ce qu'ils disent, ils... » Subitement, Violette se tut. Et quand elle parla à nouveau, Morane dut tendre l'oreille pour comprendre ses paroles, comme si elle marmottait entre ses lèvres closes. « Ils me regardent tous les deux !» Et soudain, quelques secondes plus tard, elle hurla « Bob, attention !» Une paire de jambes articulées, deux bras, deux mains et une imitation grossière de visage humain. Cela se tenait debout devant les deux hommes et cela répétait « Mon nom est Rocussi. » Un robot, Bob le comprit tout de suite.
Bob Morane est attaqué par Braco, le guerrier nocturne, qui tente de le tuer avec sa grosse hache de pierre. Mais celui-ci est paralysé par le rayon cramoisi du robot Rocussi. Bob cherche alors comment se débarrasser de ce robot et arrive à le neutraliser avec sa bombe d'aftershave qu'il pulvérise dans le mécanisme de la machine. Pour autant, Bob et Violette désespèrent de trouver une possibilité de s'en sortir. Ils essaient de comprendre comment ils ont été attirés dans cette aventure. Voici un extrait du chapitre 9.
C'est que nous ignorons toujours la raison de notre présence ici. Tout juste, approuva Bob. Il avait bien sa petite idée, mais elle lui paraissait trop incroyable. Il n'était plus tellement certain maintenant d'avoir réellement vu la petite salle au mur tendu de velours noir. Aussi, il décida de se taire là-dessus pour le moment. « Revenons à Crouic, reprit-il, et au moment où nous nous sommes rencontrés devant sa baraque. Que s'est-il passé exactement? Vous en souvenez-vous, Violette ?»« Pas très bien, dit-elle. Il s'est passé tant de choses depuis lors. Essayez de vous rappeler. Attendez. Nous sommes entrés ensemble. » Elle le regarda en souriant tout à coup. « Vous me teniez par le bras, rappela-t-elle. Ben, »« C'est vrai. Nous sommes donc entrés dans la baraque. Il y faisait très sombre et nous avons vu le magicien presque tout de suite. Il a dit, je n'arrive pas à me souvenir de ce qu'il a dit. Quelque chose comme « Je vous attendais, il me semble. » « C'est exact, fit Bob. Et il nous a appelés par nos noms. C'est d'ailleurs de cette façon que j'ai connu le vôtre. Et moi le vôtre. » Une chose m'avait frappé à ce moment-là, reprit Morane. Je m'attendais à rencontrer le nain, celui qui nous avait abordés sur le champ de foire. Oui, et j'ai été surpris de trouver quelqu'un qui avait une taille normale, avec les mêmes yeux que le nain et la même voix. Il parlait d'un spectacle qui allait commencer. Vous voyez, Violette, vous vous souvenez très bien de tout ce qui s'est passé. Après cela, il y a eu la lumière verte, poursuivit la jeune fille, et nous avons été obligés de fermer les yeux pour ne pas être aveuglés. Après, nous nous sommes retrouvés dans ces affreuses bouteilles. Quirco le collectionneur, murmura Bob. Crouic nous avait d'ailleurs prévenus. Puis Ourik l'araignée, l'horrible bestiole. Et Ruiko le chasseur, et Rocussi le robot. C'est marrant, dit Morane. Je viens seulement de remarquer une chose. Quoi donc, Bob? Crouic, Quirco, Ruiko, Ourik, Rocussi, ça ne vous dit rien? Bon, je ne vois pas, dit-elle. Ce sont des noms curieux, mais après tout, pas plus étrange, si l'on va au fond des choses, que Dupont et Durand, ou Rank et Morane. Ce sont des anagrammes, dit Bob. Des quoi? Des anagrammes. Des mots dont on emploie toutes les lettres pour former d'autres mots. Comme rage, par exemple, c'est l'anagramme de gare. Vous comprenez? Ainsi, Crouic est l'anagramme de Quirco, de Rocussi, d'Ourik. Et qu'est-ce que cela signifie d'après vous, Bob? Peut-être rien, peut-être tout. Que voulez-vous dire? Ce n'est qu'une vague idée, Violette. Mais le chasseur, l'araignée, le collectionneur,
le robot, tous ne sont peut-être tout simplement que des manifestations d'un seul individu, d'une seule personne. Kruik, dit la jeune fille. Oui, Kruik. Mais l'araignée est morte, Bob. C'est vous qui l'avez tuée, tueur d'araignée. Mais qu'est-ce que ça change ? C'est que, dans ce cas, Kruik devrait donc être mort lui aussi. Pas du tout. Je n'ai pas dit que l'araignée était Kruik, mais qu'elle était peut-être une manifestation de Kruik. Ce qui n'est pas, loin s'en faut, la même chose. Kruik pouvait parfaitement être une création, une créature du magicien à laquelle il aurait donné l'anagramme de son nom, comme il l'aurait donné à Kuirko, à Rokusi et à Ruiko. Je vois, dit-elle. Mais alors, les guerriers de Rovonedan, et Rovonedan lui-même. J'avoue que là, je ne comprends plus, soupira Moran. On n'allait quand même pas me dire qu'ils sont eux aussi des manifestations de Kruik. Bien sûr que non, mais peut-être sont-ils comme nous de simples victimes, et depuis beaucoup plus longtemps. Peut-être sont-ils des accessoires. Des accessoires. Je suppose que tout cela doit prodigieusement amuser Kruik, répondit Bob. Quelqu'un qui fait parfaitement son métier est toujours fier de faire étalage de son savoir, de son habileté, de sa maîtrise, de sa science. Or, Kruik, ne l'oublions pas, est magicien. Moran s'arrêta au milieu de sa phrase, revoyant mentalement la petite salle au mur tendu de velours noir, avec les gens immobiles, silencieux, et qui le regardaient de tous leurs yeux. « Que fait un magicien ?» pensa Bob. Ben « De la magie, bien sûr !»«
De la magie, bien sûr !» Donc, tout n'était qu'illusion, provoquée par le magicien Kruik. Pour supprimer l'énergie dont celui-ci se sert pour produire sa magie, Bob coupe l'électricité. Accompagné de Violette, il refond le chemin inverse et se retrouve au tout début de l'histoire et prêt pour de nouvelles aventures. Et voilà. Kruik, le roman est terminé. Merci Michel pour vos lectures. Notre série d'émissions sur Henri Verne et les aventures de Bob Moran est terminée. Nous allons, dans les prochaines semaines, nous retrouver sur d'autres auteurs, en particulier peut-être diffuser une nouvelle série sur le maître de tous les théâtreux, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. « On ne joue pas du temps, c'est lui qui se joue de nous. » Elle est d'Henri Verne. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radio Altitude FM, www.altitudefm.com/. Et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Et si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, joué, mis en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.